Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Garay-Coetchea de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui, dans Podcasting, il sera question de vêtements, ceux qui traversent les décennies comme le bleu de travail, par exemple. On va retracer l'épopée d'une marque Made in France qui s'est lancée dans les Deux-Sèvres il y a bien longtemps. Kidur, c'est son nom, K-I-D-U-R, a survécu à la guerre, puis à la mondialisation, rien que ça. L'article s'intitule « Kidur, la marque de vêtements qui a mis 135 ans à ouvrir sa première boutique ». Il a été publié le 26 novembre dans Télérama et Olivier Granoux, vous en êtes l'auteur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Télérama, vous nous accueillez dans les locaux de la rédaction à Paris. Vous êtes chef de rubrique Mode de vie. Alors, tout commence pour Kidur dans les années 20, on est en 1927 plus précisément, et deux amis rentrent de leur service militaire à Courlay. C'est un village de 2000 habitants dans les Deux-Sèvres, c'est à mi-chemin entre Poitiers et Nantes, et à mi-chemin entre La Rochelle et Angers. Qu'est-ce qu'ils décident de faire à leur retour ?
Ils arrivent un peu de nulle part et ils sont nulle part. Et ils décident de faire une petite société de métiers à tisser, où ils vont commencer par apprendre déjà à faire du tissu. Et puis assez vite, ils sont reconnus pour leur qualité. Progressivement, ils arrivent à faire des choses qui sont très durables. La couleur ne part pas, le tissu ne se déchire pas. Donc c'est des choses assez grossières au départ, en tout cas en termes de tissage, mais ça leur ramène quand même une petite notoriété, puisque eux, en fait, quand ils font des tissus, on dit toujours que ces tissus, c'est des tissus qui durent. Et il faut attendre 1935 pour qu'ils réalisent vraiment l'angle qu'ils vont avoir dans leur communication, et ils vont, en 1935, déposer la marque qui dure.
Passe la Seconde Guerre mondiale, lors des Trente Glorieuses, Kidur reprend de belles couleurs. Qui est-ce qui achète Kidur à l'époque ?
À l'époque des Trente Glorieuses, c'est un peu le plein emploi. Donc Kidur fournit des bleus de travail, par exemple à la SNCF, mais aussi ils ont des petites camionnettes qui passent dans les campagnes et dans les villages et qui ils font presque du porte-à-porte, puisque ça reste une petite société, même si dans ces plus grandes heures, il y aura 400 personnes embauchées. Au départ, on est quand même sur de l'artisanat à grande échelle, on va dire, mais ça reste quand même de la petite société. Des agriculteurs, aux ouvriers, tous ces gens qui ont besoin finalement de ce qu'on va appeler plus tard le bleu de travail, mais tous ces gens qui ont des uniformes, on va dire, c'est un peu les clients de Kidur.
Donc une notoriété plutôt discrète. Viennent les années 80, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Les années 80, c'est un peu le changement de paradigme sur qu'est-ce que doit être un vêtement. C'est-à-dire que on est, d'un point de vue économique, il commence à être un peu dans la récession. Donc il y a la délocalisation des usines. Le Made in France, en fait, ne fait plus recette. On aime bien les vêtements américains. Donc en fait, toutes les valeurs qui faisaient Kidur. Même le simple fait d'avoir un vêtement d'ouvrier et donc d'appartenir à une classe ouvrière, ça se dissimule. Enfin, c'est plus aussi marqué qu'avant. Et progressivement, il y a aussi toute l'apparition des supermarchés, donc tout ce qu'on appelle la fast fashion avec ces t-shirts à 5 euros. Enfin, en gros, toute la politique de Kidur, toute sa philosophie est mise à mal parce qu'en fait, on arrive dans une période où tout est à l'envers de ce que eux prônent. Donc, ils vont avoir de plus en plus de mal avec leur petite camionnette à sillonner la campagne, puisque les gens vont au supermarché. Et progressivement, la marque va reculer jusqu'à s'éteindre et à déposer le bilan en 1988.
Yeah. figure dépose le bilan, mais finalement, l'entreprise ne disparaît pas. Comment est-ce qu'ils font ?
Alors en fait, la marque Kidur est mise en sommeil, mais l'usine est rachetée par ses propres salariés et devient la confection des Deux-Sèvres, qui est en fait une usine de métiers à tisser qui va sous-traiter alors pour plein de marques, hein, qui va de Lacoste à Oxbow, je crois. Du coup, la marque disparaît, mais l'activité continue, c'est-à-dire que les métiers à tisser continuent à tourner, ils deviennent même de plus en plus experts et arrivent à faire des choses très fines et très qualitatives, mais ils ne vendent plus en direct. Ils deviennent vraiment sous-traitants et travaillent pour d'autres marques, mais eux n'ont plus de marque vitrine comme ça, comme pouvait l'être Kidur.
Kidur persiste donc dans l'ombre jusqu'en 2018, donc on fait encore un bond de 30 années. Un homme arrive à la tête de Kidur et il va tout changer à peu près. Il s'appelle Alexandre Clary. Qui est-il ?
Alexandre Clary, il a un parcours assez étonnant puisqu'il rentre comme stagiaire informatique au début des années 2000 et puis il va gravir vraiment tous les échelons un par un pour arriver jusqu'à la direction de la confection des Deux-Sèvres. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois emprunt vraiment des valeurs de la confection des Deux-Sèvres, mais aussi des valeurs de Kidur, et qui va en plus avoir cet œil un peu neuf, un peu plus jeune que peut-être les autres, et se dire qu'en fait, lui, ce qui lui manque pour, au départ, ne serait-ce que pour la fierté de ses employés, ou même parce qu'il voulait avoir des designers ou des salariés pour pouvoir les recruter et avoir les meilleurs, parce qu'il y a toujours ce souci de qualité, il veut avoir un totem, une marque totem, une vitrine, quelque chose qui à la fois plaise aux salariés actuels en se disant « moi je suis fier, je travaille pour telle marque » et qui lui permette aussi de ramener de nouveaux talents. Donc il voit ce qu'il a lui-même nommé la belle endormie qui était Kidur. Et alors je pense que ça coïncide aussi à une certaine période où le bleu de travail revient à la mode. Il se dit « ben en fait, j'ai déjà tout, il suffit de relancer la marque Kidur, et j'aurai à la fois ma marque totem, j'aurai à la fois tout ce que je recherche, et en plus, dans un marché aujourd'hui où le bleu de travail revient progressivement à la mode. »
Il va d'ailleurs, en parlant de vitrine, la marque Kidur va même ouvrir une adresse en décembre 2022, 16 rue des Bahutiers à Bordeaux, juste à côté de la porte Caillot. Et est-ce qu'il y a d'autres changements qui sont opérés, peut-être en termes d'image de marque ?
Alors, tout se bouscule un peu. Ils sont démarchés l'année dernière par le groupe Feu Chatterton, qui les sollicite en leur disant « Nous, pour notre clip, on aimerait bien être habillés entièrement en Kidur. » Donc, ce sont des gens qui aiment autant la mode que le rock, et ils sont hyper contents de cette collaboration, ils acceptent tout de suite. Et donc, leur visibilité augmente, puisqu'on peut voir dans le clip les membres du groupe Chatterton habillés en Kidur.
Derrière leur écran, leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant, très mal.
On a parlé un peu plus tôt d'un vêtement phare, c'est le bleu de travail. C'est un vêtement qui est revenu à la mode, qui s'est complètement démocratisé, on peut le dire même, ces dernières années. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès du bleu de travail ?
Je ne sais pas si le bleu de travail s'est démocratisé. Pardon. En tout cas, le bleu de travail, il a un peu changé de catégorie sociale. Hein. C'est le principe de la mode, d'aller chercher des choses pour les changer de contexte. Enfin, que ce soit les crocs en chaussures en plastique ou le bleu de travail. Par bleu de travail, on a évidemment la veste un peu chinoise bleue, mais on a eu aussi les combinaisons de garagistes, enfin, tout ce genre de choses. Et ça, il y a eu des versions un peu bourgeoises, un peu plus enfin, loin des considérations ouvrières qui sont, puisque c'était des créateurs de mode hein, qui l'ont fait. Je crois qu'il y avait Jean-Paul Gaultier qui en avait une aussi. Enfin, donc, le bleu de travail, il est revenu, on va dire, par le haut, sans idée de parler socialement. Hein, mais quand c'est la mode et les créateurs qui ramènent un vêtement, le vêtement redescend dans les classes sociales et progressivement va toucher alors des populations plus bourgeoises, plus bobos, et puis ensuite ça va aller sur les étudiants. Donc il y a eu un phénomène un peu comme ça, mais sur lequel Kidur a toujours été très clair qu'il ne voulait pas surfer, puisque même si, je pense qu'ils en ont tenu compte, mais Alexandre Clary m'a toujours dit... Nous, on n'est pas du tout dans la mode, c'est-à-dire qu'on n'a pas des collections automne-hiver, on n'a pas de choses comme ça. On est dans l'intemporel, on fait le même vêtement depuis des années. Que la mode nous rattrape, c'est super, mais quand la mode va passer, on continuera à faire nos pantalons, nos chemises à carreaux, parce qu'en fait, il n'y a pas que la veste d'ouvrier, il faut quand même des pantalons, des vestes à carreaux, il y a des vareuses de marins...
C'est quand même réservé à un certain portefeuille qui dure.
Oui, parce que la veste est à 220 €. Je crois que les chemises sont à 145. Ce qui est à la fois cher et à la fois, on n'est pas dans la haute couture non plus. Donc, c'est un entre-deux. Mais parce qu'on est sur des choses qui sont fabriquées en France, garanties à vie ou pas loin. Eux se positionnent aussi là-dessus. Ils ne sont pas là pour brader ou pour vendre au kilomètre des chemises à carreaux. D'autres s'en chargent et ils font ça très bien. Enfin, très bien. Donc eux ne sont pas du tout sur cet aspect mode et vente massive. D'ailleurs, en novembre, je crois qu'ils venaient à peine de terminer leur nouvelle collection. Donc, ils étaient à la bourre, puisque en haute couture, ça se fait avant l'été, la collection hiver. Eux, en novembre, ils n'étaient toujours pas prêts. Donc, ils ne sont pas du tout dans une réaction à un marché. Ils sont vraiment sur quelque chose qui ne bouge pas, qui va rester... voilà, il y a une intemporalité, que ce soit dans les designs de la chemise à carreaux, même il y a des suites, mais qui sont vraiment ce qu'on appelle des basiques.
Mais justement, en choisissant comme basique, par exemple, le bleu de travail, c'est un choix qui peut susciter beaucoup de débats. En ce moment, pourquoi ?
Pas chez eux, puisque eux l'ont toujours fait. Je veux dire, si c'était mis soudainement à faire des bleus de travail, alors qu'avant ils faisaient des chaussettes, je vois bien que ça aurait pu poser problème.
J'entends faire payer un bleu de travail de 100 €, même de qualité, mais quand même.
Faire payer un bleu de travail de 100 €, en fait, c'est toujours entre le prix de revient et le prix de vente qu'il faut voir. Il y a une inflation, en général, sur ce qui est à la mode, puisque, de toute façon, comme ça ne reste pas, c'est quelque chose qui est très, très éphémère. Donc, on va avoir, je vous parlais de chaussures tout à l'heure, mais on va avoir sur le bleu de travail, tout à coup, des marques très chères qui vont s'en emparer et qui vont faire des choses en petite quantité, qui seront inscrites dans l'histoire de la mode et, à ce titre-là, vont être beaucoup plus chères que la moyenne. Mais cet aspect un peu... cet embourgeoisement, on va dire, c'est toujours comme ça que les améliorations ou les innovations se sont imposées dans la société française. Par exemple, le vélo, l'invention du vélo, la draisienne, c'est 1817. Au départ, donc c'est ce grand vélo avec cette énorme roue et une toute petite derrière. C'est les aristocrates, c'est les bourgeois qui font du vélo. Il faut attendre vraiment des années plus tard, autour des années 30-40, pour avoir le vélo comme accessoire, moyen de transport populaire. Et c'est un peu pareil avec le bleu de travail, c'est-à-dire que dans la mode, on dit souvent que la mode est un éternel recommencement, mais dans la mode, des choses vont être remises au goût du jour par des grands créateurs de mode, donc par des clients qui achètent hors de prix des choses qui existaient déjà. Et finalement, le bleu de travail a suivi ce même chemin, c'est-à-dire qu'il est passé par un renouveau dans les années 2000-2020 avec les créateurs de mode, pour ensuite redescendre vers des classes plus populaires et peut-être pas retrouver les ouvriers d'autrefois, mais en tout cas retrouver des classes populaires et socialement plus proches de ce qui était au début du siècle.
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so
Olivier Granou, vous êtes donc journaliste à Télérama. Vous avez fait ce sujet pour Télérama. Normalement, vous écrivez plutôt sur le street art. Vous avez aussi travaillé en musique pour Vogue ou pour Rolling Stone. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser à Kid Yure ? Et pourquoi Télérama s'intéresse à Kid Yure ? C'est un choix qui peut interroger ?
Il y a plusieurs choses. Kid Yure, sur son site, dit qu'ils sont durables, authentiques et engagés. Et ces trois valeurs qui, pour Télérama, sont assez importantes, que ce soit dans le cinéma, dans l'art, c'est des valeurs qu'on défend nous aussi. Donc on se retrouvait sur une connivence là, d'idées qui était, je trouvais, intéressante. Et en plus, depuis le mois de juin, à Télérama, moi je développe un service, alors lifestyle, mode de vie, où en fait on va parler de tout ce qui est culture mais qui n'est pas de l'art. Par exemple, le skateboard est une culture avec ses stars, avec ses codes, avec ses histoires. Par exemple, le restaurant, la gastronomie est une culture avec ses tendances, ses stars. Donc voilà, parler un peu de tout ce qui touche les gens dans leur quotidien, avec la même exigence que Télérama a pour le théâtre ou l'art. C'était un peu la mission. Et donc là, c'était comment Télérama peut parler de mode, par exemple. On n'attend pas de Télérama, enfin, je ne crois pas d'avoir des comptes rendus de défilés de grands couturiers, ni de parler de soldes dans les grands magasins. Donc, c'était un peu comment le lecteur de Télérama, on peut l'amener vers la mode, vers des choses qu'il connaît, ou qu'il a vues, ou qu'il a entendues. Et je trouvais que Kid Yure avait toutes les valeurs nécessaires pour figurer au sein de Télérama.
Qu'est-ce qui vous a surpris en traitant ce sujet ?
Ce qui m'a surpris, c'est le côté vrai de la marque. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un positionnement marketing et c'est pas de la com, quoi. On voit bien que tout ce qu'ils font, que ce soit, parce que il y a des choses que j'ai pas dit dans l'article, mais il y a des ruches pour que les salariés ils aient leur propre miel. Enfin, il y a vraiment une bienveillance dans cette entreprise que je trouve, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, que je trouve notable et que je voulais encourager. Il y avait ce petit côté un peu absurde de n'avoir jamais eu de boutique et qu'il avait fallu attendre autant de temps pour ouvrir une boutique, alors qu'on pense souvent qu'on commence par ça et on voit ensuite. Et voir qu'en fait, le directeur de Kid Yure est un passionné de musique, enfin, finalement, est quelqu'un comme tout le monde, entre guillemets, et qui se passionne pour la bière. Et là, son nouveau projet, c'est de faire de la bière Kid Yure. Donc, je trouvais que c'était vachement intéressant d'avoir quelqu'un qui ait une vision plus large que simplement être fabricant de textiles, comme on pourrait peut-être imaginer ces gens.
L'article s'intitule « Kid Yure, la marque de vêtements qui a mis 135 ans à ouvrir sa première boutique ». Pourquoi 135 ans ?
Eh bien, parce qu'on est nul en maths. En fait, en calculant après, en 1927, on s'est rendu compte que ça faisait 95 ans. Et donc, je ne sais pas pourquoi ce 135 s'est baladé jusqu'à remonter dans le titre. Il était dans mon texte, hein, donc je suis totalement coupable de ça. Il faudra que je cherche pourquoi. C'était dans nos discussions avec Alexandre, on en avait parlé. Quand ils ont vu l'article, ils m'en ont pas parlé non plus, donc ça n'a pas dû les choquer. La prochaine fois qu'on se voit, je vous expliquerai en détail pourquoi il y a eu cette petite erreur de calcul.
L'article sur Kid Yure est donc à retrouver sur telerama.fr.
Merci Myrène Garaïco-Echea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.